Voilà, comme le professeur Michel Zinc nous l'a annoncé, il est retenu pour quelques instants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et donc il me fait l'honneur de me confier la présentation de notre ami, le professeur Luciano Rossi. Luciano Rossi, dans son parcours et dans sa personne, est une illustration du thème de notre colloque. Italien, il a enseigné les langues romanes, le français doc et doyle, l'italien, le portugais à l'université de Zurich, et il a publié et donné des conférences en allemand et dans les différentes langues romanes. Il nous propose cet après-midi une réflexion sur l'illusion perdue d'une culture européenne. Luciano, vous avez la parole.
Chers collègues, chers amis, je remercie Jacqueline Sacchini pour ces mots trop indulgents, mais c'est de votre indulgence qu'il faut que je me réclame. Si l'égarement dont je vous ferai part dans mes réflexions risquera de gâcher un peu le climat jusqu'à présent fructueux de nos travaux, le questionnement autour duquel devrait s'articuler notre analyse m'a amené à méditer sur les raisons d'un malaise qui n'est certainement pas seulement le mien. Pourquoi, pour commencer, loin de me croire partout chez moi, je me sens en exil, où que je sois, en Italie, comme en France, en Suisse, comme aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le dit déracinement du village planétaire qui me tracasse, et je ne veux m'en prendre au postmodernisme, dont j'apprécie les quelques nouveautés positives, d'autant plus qu'après la crise tant du communisme que de la social-démocratie, après la faillite du néolibéralisme, on commence à comprendre que les politiques décidées au sommet, sans que les citoyens ne soient impliqués directement, sont condamnées à l'échec. Il s'agit plutôt d'une sorte d'auto-aliénation qui me fait vivre ma propre existence comme une vie étrangère. Les langues que je capte, où que je sois, même si elles sont parfaitement compréhensibles au point de vue morphologique ou lexical, ont profondément changé dans ces derniers temps. Et j'ai l'impression de ne comprendre plus le sens de mots-clés de notre vie, comme peuple, État, révolution. Ce n'est pas une sensation inédite, je le sais bien. D'autres ont expérimenter cette impression de dépaysement avant moi. Pour surmonter l'impasse, il faudrait probablement réussir à évoquer les images d'un passé immémorial et presque aboli, faire ressurgir les langues depuis longtemps oubliées, comme l'a magistralement proposé Daniel Leroisin dans un livre récent. Quant à moi, la langue refoulée que je chercherai à faire sortir de mon album de famille est celle de la philosophie politique. Car la perte de réalité s'instaure en langage lorsque des mots que je viens de nommer, il ne reste, je cite Hannah Arendt, que des coquilles vides, propres à régler presque tous les comptes, indépendamment de leur réalité phénoménale sous-jacente. Est-il possible d'éradiquer cette maladie endémique que Arendt appelle acosmisme, dont les symptômes comportent l'absence chez soi de racines, d'intérêt commun? Mais je ne suis pas philosophe. Je ne me prends pas non plus pour Montaigne. Donc il faut que vous soyez clément. En rouvrant, pour ainsi dire, l'album de famille dont je viens de vous parler, il y a quelques jours, je suis tombé par hasard sur un numéro de 1958 de la Nouvelle Revue Française. À l'époque, j'avais 13 ans. Et ce périodique ne faisait pas partie de mes lectures habituelles. Pourtant, il était là, tout près pour moi. Il s'offrait littéralement à mes yeux. Avec des articles d'Alain Rabaugrier et de Nathalie Sarraute, j'ai trouvé un texte de Maurice Blanchot, où, s'inspirant probablement de Martin Heidegger, le philosophe français écrivait que le problème de l'étranger est celui de l'aliénation. Dans la mesure où il est sans cesse confronté, je cite, à la dissipation de toute identité, à l'altération de toute altérité, à la dissolution de toute étrangeté, là où Il n'y a rien d'autre que l'altération, rien d'étranger que l'aliénation, et rien que ce rien d'autre. Le nom de Martin Heidegger, qui m'est venu à l'esprit en lisant Blanchot, me suggère une hypothèse alarmante. Sommes-nous confrontés à l'accomplissement de l'éternel métaphysique centré sur la subjectivité, à laquelle, fascinés par nos propres constructions, nous avons fini par adhérer, indépendamment de nos credos originels, engagés sur des chemins forestiers, Holzwege, qui ne mènent nulle part? Sommes-nous incapables de renouer avec le monde de la vie? En ce qui me concerne, une fois arrivé à la fin de mon chemin d'enseignant, aurais-je finalement compris, trop tard hélas, que les techniques que j'ai contribué à transmettre à mes élèves ont fini par s'autonomiser par rapport aux fins humaines que j'entendais poursuivre? Je considérais la philologie comme la science vouée par-dessus tout à l'interprétation de produits de l'esprit humain. Dans le cas de mes travaux, ces produits appartiennent à un passé qui n'est jamais complètement derrière nous, mais qui continue de nous faire face et qui s'exprime toujours par le biais de suggestions différentes. Le défi le plus enthousiasmant pour moi et pour mes élèves était celui de décoder ces messages. Ce qui était fondamental au moment où j'ai choisi ce métier, c'était la conviction que la communauté des savants, à laquelle j'appartenais malgré tout, tout en se disputant parfois de façon acharnée quant aux méthodes exégétiques à suivre, partageait cette approche. Maintenant, l'hyperspécialisation a fini par racheter celles que l'on considérait jadis comme des sciences auxiliaires. Et les chercheurs, en particulier en Europe, semblent avoir perdu de vue l'objectif final. Si bien que, pour me donner à quelques exemples liés à mon métier, on connaît bien les manuscrits qui nous ont transmis les textes médiévaux, tout comme la structure métrique ou rhétorique de ces derniers. Mais quant à leur signification, souvent on s'arrête au niveau le plus superficiel. Du coup, les langues anciennes qui étaient elles aussi les nôtres nous sont devenues encore plus obscures. C'est comme si on avait honte de dispenser ne fût-ce qu'un brin de sagacité sur des sujets aussi éphémères. Plus en général, face à une crise de valeurs qui est une crise de civilisation, nous avons honte de notre engagement pour la culture, de notre passion pour le savoir. Quand j'ai accepté, il y a 28 ans, l'achat de littérature romane du Moyen Âge à l'Université de Zurich, où j'étais déjà professeur à Sienne, j'ai soumis ma propre vie et celle de mes proches à un changement radical, peut-être trop soudain, persuadé, quand j'étais, de pouvoir agir depuis un observatoire privilégié au centre de l'Europe. En fait, j'étais hanté par l'illusion d'une culture unitaire permettant aux intellectuels de notre continent, lettrés et scientifiques, de construire un avenir commun pour la nouvelle génération. Il s'agissait d'un rêve plusieurs fois conçu en Europe et réinventé plusieurs fois au XXe siècle. Un rêve que, jeune de 16 ans, né après le massacre de la Deuxième Guerre mondiale, j'avais partagé avec mon père, né après le désastre de la Première Guerre mondiale. Voilà pourquoi le titre de mon intervention, « L'illusion perdue d'une culture européenne », titre auquel j'ai ajouté par optimisme un point d'interrogation, s'inspire d'un poète très cher à mon père, Paul Valéry. Je cite, « Il y a l'illusion perdue d'une culture européenne et la démonstration de l'impuissance de la science, atteinte mortellement dans ses ambitions morales et comme déshonorée par la cruauté de ses applications. » On le sait bien. L'échec dénoncé par Valéry et peu après par Edmund Husserl dans son dernier livre, publié posthume, s'est renouvelé avec davantage de dégâts dans les années 40, à une époque dans laquelle une nouvelle guerre a obligé les intellectuels de repenser l'Europe en la transformant en mythe littéraire. À partir du moment où l'Europe s'est portée atteinte elle-même, le langage de la littérature a dû, pour en rendre compte, dire adieu à l'Europe tout en la nommant. Prodigieux jeu dialectique de présence-absence, l'Europe en texte, abolie au réel et léguée au récit. Ce sont des phrases de Pascal de Turin. Une fois l'hécatombe terminée, les philosophes se sont interrogés sur les perspectives qui s'ouvraient à notre continent. En 1949, Jean-Paul Sartre écrivait dans le troisième numéro de la revue Politique étrangère, je cite, « C'est en visant à une unité de culture européenne que nous sauverons la culture française. Mais cette unité de culture n'aura aucun sens et ne sera faite que de mots si elle ne se place pas dans le cadre d'un effort beaucoup plus profond pour réaliser une unité économique et politique de l'Europe. Cette politique culturelle, on a de chances que si elle est un des éléments d'une politique qui cherche à défendre non seulement l'autonomie culturelle de l'Europe contre l'Amérique et contre l'Union soviétique, mais aussi son autonomie politique et économique, afin de constituer l'Europe comme une force entière entre les deux blocs, et non pas comme un troisième bloc, mais comme une force autonome qui refusera de se laisser déchirer entre l'optimisme américain et le scientisme russe. Le problème culturel aujourd'hui n'est qu'un aspect d'un problème beaucoup plus grand, qui est celui du destin entier de l'Europe. Et si l'on pense qu'aucune action n'est possible contre les deux blocs, si l'on pense que l'Europe, divisée entre deux zones d'influence, doit être un champ de bataille, la culture européenne est assurément perdue. Et le philosophe d'ajouter, si l'on suppose qu'on la sauvera par une sorte de monachisme des écrivains qui parleraient des oiseaux dans des couvents pendant qu'on se battrait à côté, elle est perdue de toute façon et pour toujours. Maintenant, on ne sait pas si on pourra parler d'oiseaux dans les prochaines années. Dans les années 60... Ah non, j'aimerais ajouter encore une observation. Maintenant, nous sommes assommés par une technologie d'une puissance prodigieuse dont les rites sont célébrés par l'industrie culturelle et la révolution numérique. Mais une fois achevée la fonction de ces techniques, pour bien des usagers, il ne reste rien car ils ne savent pas quoi chercher. Les pratiques qui auraient dû demeurer des manières de partager le savoir et de l'enrichir ont été hypostasiées jusqu'à devenir autoréférentielles. Dans les années 60, j'avais l'habitude d'accompagner mon père lors de ses voyages à Paris, en Allemagne ou ailleurs, pour des séjours d'enseignement ou de recherche. Né d'une mère viennoise en exil à Naples, il était napolitain, philosophe et marxiste, mais spécialiste de Hegel. Comme vous le comprenez, il incarnait bien des contradictions. J'ai donc eu la chance extraordinaire de faire la connaissance de quelques maîtres qui ont réinventé, eux aussi, chacun à sa façon, le mythe de l'Europe. Je nommerai seulement ceux qui, à l'époque, ont contribué à ma formation intellectuelle. Jean-Paul Sartre, justement, avec lequel, âgé de 16 ans, j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots autour de Stendhal et de Flaubert. Lucien Goldman, à Paris, et Karl Löwit, à Heidelberg, avec lesquels j'ai eu la possibilité de m'entretenir un peu plus longuement, plus en quatrième, Eric Auerbach, dont j'ai trouvé les livres qui m'ont marqué le plus, encore une fois, à Heidelberg. Pour être à la hauteur de mes ambitions, je lisais trop tôt pour les comprendre, vraiment, les récits du cycle des chemins de la liberté de Sartre, pour une sociologie du roman de Goldman, sur critique der christlichen Überlieferung de Löwit, et naturellement Mimesis de Auerbach. À l'époque, on vivait en Sicile, dans des lieux magnifiques, au bord de la mer. À l'âge de 13 ans, j'avais déjà commencé à étudier le grec. Et peu après, j'ai eu la chance d'assister régulièrement aux représentations classiques dans le théâtre grec de Syracuse. Pour quelqu'un qui, comme moi, est à moitié calabrais, né dans la Grande Grèce, c'était un honneur difficile à décrire. Si je pense combien de pays qui ont donné des sens à mes idoles d'antan ont été marginalisés de nos jours, une période dans laquelle comparer n'importe quel État à la Grèce est considéré comme la pire insulte, c'est pour rester marginalisé moi-même que, même si j'en ai le droit, je n'ai jamais demandé la double nationalité en Suisse, si bien que tous les 6 ans, je suis obligé de faire viser mon permis de séjour comme tous les Gastarbeiter, auquel je me permets ici de rendre hommage. die Heimat ist weit. Si je m'interroge sur les raisons qui m'ont encouragé à poser ma candidature à Zurich, la seule réponse c'est que tout en étant fasciné par la culture française et par les auteurs qui ont jalonné mon existence, je comprenais que pour réaliser le rêve d'une culture européenne, il fallait régler les comptes avec l'héritage allemand. D'ailleurs, l'observation de Martin Heidegger dans sa fameuse interview au Spiegel, d'après laquelle « lorsque les Français se mettent à penser, apprennent l'allemand », n'a jamais été vraiment une boutade. Voyez combien de difficultés pour un Italien qui, à partir de 1984, dans son travail d'enseignant, n'a utilisé que très rarement sa langue maternelle. Mais ce ne sont certainement pas à chercher dans mon activité didactique les raisons de mon désarroi, même si je ne me suis jamais considéré comme professeur. Ce qui m'agace, c'est la marginalisation, en Suisse comme ailleurs, de toutes les valeurs auxquelles j'étais lié, tout comme des langues qui les incarnent. En fait, les élèves que je croyais avoir aidé à se former des convictions personnelles, je les vois maintenant désemparés, insouciants vis-à-vis de leurs collègues, tant européens qu'africains ou asiatiques, moins chanceux qu'eux-mêmes. Je les vois subjugués, prêts à se faire imposer par des maîtres qui sont plutôt des centimètres à penser, l'apprentissage de ces techniques presque autoréférentielles dont je viens de parler. Plus en général, partout dans ce monde, qu'une fois on disait civilisé, je vois qu'une nouvelle technologie sacramentelle du salut, dont les ministres sont les agences de notation, est en train de transformer les données scientifiques objectives en abstractions hypostasiées dont nous sommes les victimes aliénées. Mais faut-il vraiment se résigner à rembourser des dettes que nous n'avons jamais souscrites aux spéculateurs qui gèrent les États européens et mondiaux? Quel est le sens que l'on pourrait attribuer aujourd'hui à l'expression « culture européenne » à un moment où ces deux termes « culture » et « Europe » nous paraissent, sinon complètement dépourvus de sens, irréductiblement compromis à cause de différents oublis et omissions? Dans ces derniers temps, les livres consacrés à ce problème se sont multipliés. Il y en a certainement de très bons. Quant à moi, je suis encore et plus que jamais convaincu que par culture, il faut entendre l'ensemble des richesses et de circonstances qu'une génération transmet à l'autre en tant que résultat de son activité d'autoproduction humaine et que l'autre génération à son tour modifie et poursuit en fonction de cette activité. La culture, dans son acception la plus haute, devrait avoir pour ambition de modifier en profondeur les conditions économiques, politiques, juridiques et sociales qui empêchent l'émancipation des hommes. En d'autres mots, la culture, c'est nous, et l'Europe aussi. Voilà pourquoi il est suicidaire de créer de nouvelles frontières à un moment où il faudrait abattre celles désormais vétustes qui étouffent l'affranchissement des déshérités, et Dieu sait s'il y en a, non seulement dans les pays considérés comme les plus pauvres, mais aussi en Italie, en France, aux États-Unis ou en Allemagne. Quant à nous, les Européens, les dits intellectuels, vis-à-vis du problème des migrations, il faudrait que nous nous battions pour intégrer les gens étrangers plutôt que les ostraciser en les condamnant à des ghettos qui, de nos jours, sont l'infamie la plus exécrable pour un continent qui se veut civilisé. Excusez-moi, mais je suis toujours ému quand j'arrive à parler de ça. Pour franchir le guet de la dispersion, du provincialisme, d'un faux humanisme stérile, pour ne pas se contenter de parler des oiseaux dans des couvents, il faudrait penser une nouvelle approche du savoir fondée sur une redéfinition continuelle de notre rapport au passé, avec l'analyse du présent et une vision audacieuse de l'avenir. En d'autres mots, il faudrait réinventer l'utopie, tout en sachant, je cite Lucien Goldman, « que la révolution, c'est l'engagement des individus dans une action qui comporte le risque, le danger d'échec, l'espoir de réussite, mais dans laquelle on joue sa vie. Même si cela peut sembler une boutade à un moment où seules les raisons d'une économie à sens unique semblent avoir de l'importance, l'un des nœuds centraux de la question européenne reste la conciliation des valeurs de l'encyclopédie et de la Révolution française. On a beau chanter la Marseillaise, il faut savoir ce que cela signifie, avec les grandes nouveautés dialectiques introduites par la spéculation allemande. En d'autres mots, nous devrions réaliser la mission impossible de concilier Rousseau, Marx et Heidegger, sans oublier Husserl, ni Arendt, et surtout sans refouler l'un ou l'autre aux épaules, de façon subreptice. La croissance dont tout le monde parle en ce moment devrait être d'abord une croissance de rapports humains. Le problème des problèmes est la réalisation d'une citoyenneté constitutionnelle, d'une démocratie réelle, fondée sur une éthique congénitalement dialectique, ce qui comporte, en d'autres termes, le bien-être des citoyens établi dans un cadre réellement démocratique. Vous avez compris que je suis en train de paraphraser le tout dernier livre de Jürgen Habermas, Zur Verfassung Europas, qui va paraître en français dans quelques jours, La Constitution de l'Europe chez Gallimard. Nous ne faisons que répéter que l'actuel gouvernement fédéral allemand, avec ses satellites français et italiens, est devenu le responsable d'une désolidarisation qui touche l'ensemble des pays européens. Mais face aux défauts de construction qui sont au fondement de l'union monétaire, face aux divergences drastiques dans la capacité de compétition des différents pays formant l'Union, les gouvernements se trouvent désemparés et paralysés, craignant surtout la perte de légitimation auprès de leurs citoyens. Le compromis entre le libéralisme économique de l'actuel gouvernement allemand et l'étatisme exaspéré de la France n'a pas réussi à libérer les citoyens européens de la tyrannie des impératifs des grandes banques et des agences de notation. On voit aujourd'hui ce qui est réservé à la Grèce. À l'objection qu'il n'existerait pas de peuple européen, si bien qu'une union politique du continent serait édifiée sur le sable, Habermas en oppose une autre. Je cite, « La fragmentation politique durable dans le monde et en Europe » est en contradiction avec la croissance systémique d'une société mondiale multiculturelle. Et il finit par bloquer tout progrès dans la civilisation constitutionnelle des relations de puissance étatique et sociale. Fin de citation. Je ne veux pas me faire le porte-parole de quelqu'un qui, du haut de ses 82 ans, en sortant de son bureau, crie sa colère contre les élites politiciennes, car il n'en a pas besoin. Je me borne à observer que dans son livre, Habermas a évoqué des problèmes incontournables. Quant aux solutions pratiques proposées par le maître allemand, surtout le dépérissement des États au profit des citoyens qui auraient comme résultat la fin de la politique ancienne, elles me paraissent malheureusement datées. L'étude attentive des textes de Rousseau et l'expérience du socialisme démocratique ont déjà suggéré à Marx l'idée d'une association de citoyens fondée sur une participation directe à la décision générale. Malheureusement, toutefois, le rapport entre citoyens et capital n'a pas été résolu entre-temps. Le moment est venu, probablement, d'inventer le dé-développement, de mettre un terme à la colonisation et à la marginalisation des cultures autres. Le moment est venu de concevoir la croissance en fonction des besoins réels de tous les citoyens du monde entier. Est-ce de l'utopie? Bien sûr, mais puisque je n'ai pas d'autre solution pratique à vous offrir, et c'est là la raison de mon désarroi, permettez-moi de revenir encore une fois aux auteurs de ma jeunesse pour quelques réflexions supplémentaires. La fin de l'histoire, prédite avant Hegel par Saint-Paul, n'est qu'une figure. L'historicisme, pour Karl Löwit, n'est qu'une forme sécularisée d'une nouvelle théologie, orientée vers une eschatologie de la rédemption qui donne son modèle à la philosophie de l'histoire. Nous n'avons probablement plus besoin de ce type subreptice de théologie. Il nous faudrait rester plutôt à l'écoute des exigences de ces fameux citoyens en leur restituant le droit et la possibilité de s'exprimer. Pour nous libérer des intermédiaires auxquels nous avons confié la tâche de penser à notre place dans un nombre de plus en plus grand de domaines, il serait d'abord souhaitable que la summa athéologique préconisée par Georges Bataille soit finalement réalisée en dépit des risques qu'une opération semblable peut représenter. Au Moyen-Âge, notamment dans les années 60 du XIIIe siècle, une telle encyclopédie ayant comme but de libérer, de racheter les laïcs, non pas la plèbe, mais une oligarchie qui ne maîtrisait pas le latin, en fournissant en nouveau public aux lecteurs les moyens pour repenser la connaissance, a été effectivement accomplie par un riche et cultivé Florentin, en exil doré en France. Ce grand dessin comporta pour le lettré qui le réalisa une damnatio memoriae toute particulière, non pas parce que son nom ait été effacé ou banni des histoires littéraires, bien au contraire, mais parce que nous garderons à tout jamais l'image de sa face recuite par les brûlures des flammes internales. Je me réfère à Brunet Latin, relégué par un autre Florentin, son élève, Dante, parmi les pêcheurs de sodomie dans le 15e champ de l'enfer. Ayant mis votre patience à rude épreuve, je serai obligé de laisser de côté les détails aux érudits pour me donner à l'essentiel et pour arriver à la conclusion. Je suis convaincu que l'exemple de Brunet est très pertinent dans le cadre de notre colloque, non seulement parce que l'auteur a utilisé une autre langue pour rédiger son opus magnum, le Trésor, mais aussi parce que sa condamnation est le résultat de la querelle opposant les partisans des grands États nationaux dont le royaume de France était le plus important d'une part et ceux de l'Empire germanique de l'autre. Naturellement, il serait naïf d'inscrire tout court Dante parmi les adeptes des Hohenstaufen. Et d'ailleurs, l'idée d'une germanité de Dante est un concept qui revient périodiquement en Europe, auquel le jeune Erich Auerbach lui-même ne fut pas étranger, mais dont il faut se méfier. Toujours est-il que l'Alighieri a hissé de tout son cœur les Sacrateos, les cendres consacrées des rois de France, qu'il considérait comme l'obstacle le plus important à la réalisation de sa monarchie. On a compris que très récemment que le Trésor, l'encyclopédie dont je viens de vous parler, fut conçu sous l'impulsion de Charles Ier d'Anjou, qui, même s'il n'en est pas le commanditaire direct, a encouragé et soutenu son auteur, surtout lors du retour de Brunet Latin à Florence. Non seulement celui-ci, grâce à ses années d'études en France, réussit à réaliser un corpus théorique servant à légitimer au plan éthique la croissance de la jeune République florentine, comme on le répète toujours, mais il établit un rapport privilégié avec le royaume angevin de Naples, en fournissant à Charles lui-même les bases morales de sa domination, un pouvoir qui s'exercera surtout grâce à la maîtrise de la parole et de la rhétorique, où le vulgaire, doil, était destiné à remplacer le latin. Ce sont des faits bien connus, et si je me suis permis de les évoquer, c'est uniquement en raison d'une certaine distraction de la critique récente qui paraît les refouler. On a ajouté beaucoup d'importance aux différentes dédicaces des ouvrages Brunet. Mais en ce qui concerne le Trésor, il suffit de lire le début de l'ouvrage pour s'apercevoir, je cite en modernisant, que l'issir qui veut en petit lieu amasser choses de grandissime vaillance, non pas pour son délit seulement, mais pour accroître son pouvoir et pour assurer son état en guerre et en paix, eh bien Charles d'Anjou. Nous pouvons en avoir la confirmation si nous analysons attentivement la lettre à Charles d'Anjou, contenue dans le Trésor. Charles d'Anjou, qui vient d'être élu par les sages gens de la ville, sénateur à vie à Rome. Cela a vint en ce qui concerne Charles en août 1263. On a affirmé que cet épître ne serait qu'un exercice hostile, mais on a sous-estimé la circonstance que la première élection sénatoriale de Charles marquait un tournant particulier dans les rapports du comte de Provence avec la papauté. En suggérant au prince Angevin de s'installer personnellement au plus vite à Rome avec sa suite, Brunet montrait qu'il avait bien compris que c'était en jouant sur l'adhésion du Capitole que Charles aurait la chance de se dérober à la suzeraineté papale, une suzeraineté que les Romains n'admettaient pas. Charles, malheureusement pour lui, ne donna pas satisfaction aux suggestions du maître florentin, et l'expédition italienne dut être ajournée sine die. Encore en 2005, Jean-Marc Mondosio écrit que les raisons de l'adoption du français par Brunet latin ne sont pas si claires. Pour Claude Thomassé, Brunet latin suit un ordre descriptif mnémotechnique pour présenter son trésor, mais par là même, il prépare un avenir d'homme politique éclairé à son ami, interlocuteur muet, promis au gouvernement de la cité de Florence. En réalité, on ne comprend pas pourquoi, pour faciliter une carrière politique dans sa propre cité, en florentin, il serait nécessaire de rédiger l'encyclopédie en question en français. Il me paraît assuré que le milieu politique destiné à profiter de ce manuel est foncièrement européen. Il s'agit pas que de Charles d'Anjou, mais de l'ensemble des princes européens maîtrisant le français. Si vous voulez, pour résumer, les héritiers de Blanche de Castille. Le fait que Brunet n'ait pas explicité le nom du dédicataire dérive uniquement de la circonstance que son texte a été écrit en même temps que l'expédition de Charles en Italie, et par conséquent, il fallait que l'auteur se laisse, pour ainsi dire, les mains libres. Pour les mêmes raisons, le pendant toscan du trésor, le tesoretto, a été composé en florentin. Parsemé d'éléments biographiques, le tesoretto a été considéré comme l'une des premières œuvres allégoriques en toscan, si bien que la critique en s'est appliquée en indiquait les possibles modèles. Cependant, dans l'approche pragmatique de Brunet, même l'allégorie est perçue comme un moyen de persuasion, servant à captiver le public. La personnification de nature que l'auteur rencontre au moment où, désemparé à cause de la défaite des Guelfes à Montaperti, il s'est égaré dans une forêt, non seulement évoque la philosophie de la consolatio de Boesso, mais ressemble d'une déesse païenne, dont la tâche, avec les personnifications de largesse, courtoisie, loyauté, prouesse et amour, est celle d'apprendre à l'auteur à mieux connaître les vices et les vertus afin de mieux se débrouiller vis-à-vis des difficultés politiques. Même la confession inachevée du poète à pénitence personnifiée qui clôt le texte, plus qu'un aveu sincère, apparaît comme un exercice de style oratoire. Au plan strictement théologique, la damnation de Brunet ne serait donc pas complètement dépourvue de justification. Mais la condamnation du maître florentin parmi les pécheurs contre nature ne paraît reposer sur aucun élément historique. Dante a dû tuer le père, duquel il avait beaucoup appris, pour donner au fils la possibilité de faire étalage de pietas. L'accusation de sodomie n'est que l'une des supercheries historiques dont la comédie est parsemée. Ce que me paraît grotesque, ce sont par contre les tentatives de justifier cette supercherie par les spécialistes, qui ont confondu l'amitié spirituelle avec l'homosexualité et cette dernière avec la pédérastie. Mais c'est de pédophilie qu'il s'agit dans le 15e chant de l'enfer. Tout cela uniquement pour vous dire à combien de dangers sont soumis ceux qui magnifient une langue étrangère aux dépenses de leur langue maternelle. Non seulement ils seront condamnés à incarner l'inquiétante étrangeté du double, mais il risque de brûler pour toujours dans les flammes infernales.